Sixième chapitre.
Le chargement par la culasse. Le fusil à aiguille.
La recherche et l'expérimentation ayant permis d'apporter aux armes à feu portatives des avancées spectaculaires, le chargement par la bouche du canon n'était plus perçu comme l'unique solution, et fort de l'expérience acquise dans la fabrication des fusils de chasse, le chargement par la culasse devait pouvoir être transposé sans grande difficulté sur les armes de guerre. Cependant, pour conserver à l'arme sa robustesse, ce chargement ne pouvait se faire comme les armes de chasse, consistant à faire basculer le canon vers le bas, pour le désolidariser de son mécanisme de mise à feu. En effet, l'emploi de la baïonnette exigeait la solidité et la rigidité de l'arme, et pour cela il fallait que le canon et la crosse soient invariablement liés l'un à l'autre. Cette idée n'était pas nouvelle, et les fabricants des nations européennes s'étaient emparés du sujet depuis longtemps, mais quel que soit le système retenu, un problème perturbait ces inventions, et rendait les armes dangereuses. En effet, le manque d'étanchéité entre la charge et la culasse, générait des crachements préjudiciables à l'utilisateur. En 1808, l'empereur Napoléon Ier demandait à l'armurier Poli de concevoir ce type d'arme. Poli, armurier suisse établi à Paris, imagina un fusil à percussion qui différait de celui de Forsyth dans sa manière d'être chargé. La cartouche était alors introduite par la culasse, mais la mise en œuvre de ce système demeurait compliquée. Il fut abandonné ou plutôt délaissé pour un temps, mais quelques années plus tard les premiers modèles firent leur apparition. Hélas, leur système d'obturation du tonnerre et l'utilisation de cartouches spéciales en faisaient toujours des armes dangereuses pour le tireur. Il faudra attendre 1817, et l'invention du fusil à aiguille par l'armurier allemand Jean-Nicolas Drez, pour donner à ce mode de chargement un nouvel intérêt. La mise au point de son arme avait été précédée par la création d'une nouvelle cartouche. Alors qu'il travaillait au perfectionnement des capsules de fulminate pour les fusils de chasse, il eut l'idée d'introduire tout simplement la capsule dans la cartouche, qui ne contenait alors que la poudre et la balle. Restait ensuite à trouver un autre système que le chien pour la percuter. L'idée fut de la frapper à l'aide d'une aiguille poussée énergiquement par un ressort. Drez y parvint et en avril 1828, il obtint un brevet de 8 ans pour son fusil à aiguille et sa cartouche fulminante. Son premier fusil se chargeait encore par la bouche du canon et ce n'est qu'après de longues années de recherches et d'expériences qu'il parvint en 1836 à appliquer à son fusil à aiguille le chargement par la culasse. Ce fusil subira bien d'autres perfectionnements et en 1841, la Prusse l'adopta pour son armée. Pour charger le fusil, la culasse mobile est tirée en arrière à l'aide d'un levier, qui se déverrouille en le faisant pivoter d'un quart de tour, pour dégager ses tenons de la boîte de culasse. Lorsque le tonnerre est démasqué, on introduit la cartouche dans le canon, puis on referme en ramenant la culasse à l'aide du levier que l'on verrouille par pivotement inverse. L'étanchéité de l'explosion est assurée par les formes tronconiques mâles et femelles de la culasse et du tonnerre. Pour armer le fusil, l'utilisateur tire la contre-culasse en arrière pour bander le ressort et crocher l'épaulement de la tige porte-aiguille sur le verrou de la détente. Pour éviter les accidents, on armait le fusil avant de le charger.
Le fusil chasse-pot.
Les nations de l'Europe, pourtant si promptes à se saisir de toute nouveauté en matière d'armement, ne s'étaient guère intéressées à cette invention, mais à la suite des guerres menées par la Prusse et de ses victoires sur le champ de bataille grâce à sa puissance de feu, elles durent revenir de leur indifférence et adopter l'arme nouvelle. En France comme ailleurs, il fallut rattraper le temps perdu. Le cap était à nouveau fixé, un fusil d'infanterie de petit calibre se chargeant par la culasse. Il ne restait plus qu'à faire un choix parmi les nombreux modèles que l'on connaissait à cette époque. Ce n'est pas moins de 80 systèmes d'armes qui allaient subir en 5 ans, des essais plus ou moins longs, soit dans les corps de troupes, soit dans les commissions spéciales d'expérience. Les travaux entrepris permirent de déterminer le calibre, la rayure, le poids de l'arme, la balle, la charge et sa composition qui convenait le mieux pour assurer la portée, la justesse, la continuité du tir, la légèreté de l'arme tout en conservant un recul acceptable. Ce travail de recherche et de perfectionnement aboutit à l'adoption d'un modèle proposé par Chassepot. Le principe général de fonctionnement de ce fusil était identique à celui de Drez. L'ouverture de la chambre se faisait par le recul de la culasse solidaire d'un levier d'armement. Pour cela, on faisait pivoter d'un quart de tour le levier d'armement pour le libérer de son verrouillage, puis on le tirait à l'arrière. La cartouche introduite dans la chambre, la culasse était ramenée à l'avant et maintenue dans cette position par le verrouillage du levier d'armement rabattu sur le côté. L'étanchéité de l'explosion était assurée par un obturateur en caoutchouc placé sur le porte-aiguille fixé en bout de la culasse. Pour armer le fusil, l'utilisateur tirait le chien en arrière, ce qui avait pour effet de bander le ressort, de faire reculer l'aiguille dans le porte-aiguille et de le crocher sur le verrou de la détente. L'arme était prête à tirer. Le fusil de chasse-pot se démarquait de celui de Dresse par sa simplicité, sa robustesse, son entretien facile, mais également par sa nouvelle cartouche. Dresse, qui avait été le premier à introduire dans la cartouche la pastille fulminante, l'avait conçue en plaçant cette dernière derrière la balle de telle sorte que l'aiguille de son fusil devait d'abord traverser toute la poudre de la cartouche avant d'aller frapper l'amorce. Avec l'utilisation de cartouches en papier, Dresse s'assurait ainsi, en positionnant l'amorce derrière la balle, qu'elle serait toujours parfaitement dans l'axe de l'aiguille. Ce mode d'inflammation de la poudre présentait plusieurs avantages. Il permettait l'entière combustion de la poudre avant que la balle ne sorte du canon, favorisant ainsi une poussée maximale des gaz sur le projectile. Il offrait encore l'avantage au tireur de ne pas être vu de nuit. En effet, la combustion se faisant entièrement à l'intérieur du canon, il n'y avait pas de projection hors du canon d'une partie de la poudre non brûlée qui accompagne le projectile. Chassepot reprit le principe du fusil à aiguille de Dresse et fut l'auteur de plusieurs améliorations, dont l'obturateur en caoutchouc, l'amélioration du mécanisme de mise à feu et la cartouche dont la capsule de fulminate fut fixée à sa base inférieure. Cette disposition moins avantageuse permettait surtout d'utiliser des aiguilles deux fois plus courtes et donc moins fragiles, assurant aux soldats une plus grande fiabilité de son arme. Ce fusil de 3 kg était équipé d'un sabre baïonnette. Son canon à 4 rayures hélicoïdales était de calibre 11 mm. Sa portée deux fois supérieure à son prédécesseur, sa précision, la simplicité et la promptitude de son chargement le fit préférer à d'autres modèles et il fut choisi pour équiper l'armée française sous le nom de fusil modèle 1866. En 1870, la France possédait environ 1 200 000 fusils de ce modèle. C'est presque exclusivement avec les armes modèle 1866 que l'on fit la campagne de 1870 à 1871.
Le fusil gras.
À la suite de la campagne de 1870 à 1871, le ministre de la Guerre demanda un rapport sur le comportement des armes portatives et de leurs munitions au cours de cette épreuve. Cette dramatique période permit de mettre en lumière les qualités et les défauts des armements et l'enquête conclut à la nécessité d'apporter certaines améliorations à ces armes et spécialement aux cartouches modèle 1866. En effet, comme Dresse, Chassepot utilisait des cartouches en papier qui devaient disparaître le coup parti, soit en étant brûlées, soit par expulsion des résidus. Les avantages de ce système permettaient d'avoir une munition plus légère, des tolérances relativement importantes dans la fabrication des cartouches, et d'éliminer le souci de l'extraction de l'étui du canon après le tir. Pour parvenir à faire disparaître la cartouche par effet du tir, on sacrifia un peu de la solidité de son enveloppe, mais ce choix eut pour inconvénient leur rapide détérioration, notamment lorsqu'elle n'était plus maintenue dans les gibernes des soldats. Les armes du modèle 1866 présentaient en outre quelques inconvénients, qui étaient loin d'avoir le même caractère de gravité, mais qu'il convenait d'être atténués, voire supprimés. Le point faible étant la cartouche, c'est tout naturellement sur elle que se porta l'attention de la commission d'examen. Elle mit très rapidement en évidence les limites de ce type de cartouches et émit l'avis que la solution la plus avantageuse consisterait dans la substitution d'une cartouche à étui métallique à la cartouche combustible. Cet avis entraînait obligatoirement la modification complète de l'arme, qui devait, avec l'adoption d'une cartouche à étui métallique, disposer sur le mécanisme de fermeture, d'un système extraction permettant de retirer facilement l'étui d'une cartouche enfoncée dans la chambre. Un très grand nombre de systèmes furent proposés, mais après les premiers essais, le fusil de M. Gras parut satisfaire plus spécialement aux conditions générales qui avaient été imposées. Le système Gras consistait à remplacer, après avoir tubé le canon, la culasse mobile du fusil modèle 1866, par un nouveau mécanisme approprié aux conditions qu'implique l'emploi de la cartouche métallique, tout en conservant comme moteur de percussion un ressort à boudin déjà employé dans le fusil 1866. Cela permettait de conserver un même système entre les différents types d'armes modèle 1866 de l'infanterie, la cavalerie et artillerie. Il sera adopté en France par décision du 7 juillet 1874. Les armes neuves fabriquées d'après le système Gras prirent la dénomination de fusil, carabine ou mousqueton modèle 1874. Les armes modèle 1866, transformées d'après le même système, furent désignées sous le nom d'armes modèle 1866 à 1874. Le fusil Gras mesure 1,30 m. Son canon de 820 mm de long est au calibre de 11 mm. Ses quatre rayures sont au pas de 0,55 m. Il est équipé d'une épée baïonnette. La cartouche mise au point pour ce fusil est réalisée avec un étui en laiton portant sur son culot l'amorce. C'est la cartouche modèle 1874.
Conclusion.
Avec le fusil Gras, l'armée française possédait enfin une arme réunissant tous les éléments qui avaient fait l'objet d'innombrables recherches et brevets au cours des siècles précédents, mais n'avaient pu voir le jour par manque de fiabilité, de simplicité ou de connaissance. L'arme était solide, puissante et précise, d'un poids raisonnable et facile à manier, ses organes de visée étaient au point, elle était équipée d'une baïonnette qui ne gênait pas le tir, son canon et ses rayures étaient usinés avec précision. Le point d'orgue de ce fusil était sa cartouche à étui métallique renfermant la balle, la charge et l'amorce. Plus solide, elle avait fait disparaître un grand nombre de problèmes dont ceux liés à son chargement, à son encrassement, son transport. Avec l'invention de l'extracteur à étui, une idée fort ancienne allait reparaître, le fusil à répétition. Les armes à magasin de cartouches, permettant de tirer plusieurs coups sans être rechargées, allaient être l'objectif suivant.